Le premier chapitre du livre du Deutéronome commence bien mal. Moïse passe en revue la rébellion de la première génération d'Israélites qui a péri dans le désert. Lorsqu'ils étaient punis, ils éprouvaient du remords, mais ne se sont jamais repentis de leurs mauvaises actions, et c'est pour cela qu'ils sont tous morts. La différence entre le remords et la repentance apparaît nettement dans l'attitude de deux apôtres du Christ. Après avoir renié son maître à trois reprises, Pierre s'est amèrement repenti, tandis que Judas, après avoir trahi le Seigneur, a seulement éprouvé du remords, voyant que les choses ne tournaient pas à son avantage comme il l'avait espéré. Qu'en est-il de vous ? Moi, en principe, je respecte bien le code de la route parce que conduire, c'est dangereux. Il m'arrive pourtant de dépasser la limitation de vitesse lorsque, par exemple, je traverse des villages déserts la nuit. Si je me fais arrêter, je trouve cela très fâcheux, mais en vérité, je regrette davantage de m'être fait prendre plutôt que d'avoir enfreint la loi. C'est ainsi qu'à cause de leur rébellion, les Israélites eurent à subir 38 ans de punition et tourner en rond jusqu'à ce que tous les plus de 20 ans soient morts. Le deuxième chapitre continue avec le premier discours de Moïse qui est un rappel des événements passés. Je commence à le lire. « Nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux comme l'Éternel me l'avait demandé. » Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séir. Alors l'Éternel me dit, « Vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes, prenez la direction du nord. » Verset 1 à 3. Après un séjour prolongé à Kadesh, très au sud du pays promis, commença pour les Israélites une longue période de vie nomade au sud-ouest de la Palestine, en plein désert. Moïse ne dit rien concernant les divers événements qui eurent lieu durant tout ce temps d'errance sans but, qui ne fut marqué par aucun progrès dans l'histoire d'Israël. Pour avoir refusé de faire le pas décisif quand Dieu l'y appelait, le peuple fut condamné à tourner en rond pendant 38 ans. Le récit recommence à partir du moment où l'Éternel leva la malédiction qui pesait sur le peuple lorsqu'il a dit « Vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes. » Je continue maintenant en condensant. « Ordonne au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent la région de Séir. Ils auront peur de vous, mais faites bien attention. » N'allez pas les attaquer, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même de quoi poser le pied. En effet, j'ai donné la région montagneuse de Séir en possession à Ésaü. Vous achèterez d'eux tout ce que vous mangerez, et vous leur payerez même l'eau que vous boirez. L'Éternel m'avertit, ne traitez pas Moab en ennemi et n'engagez pas de combat contre lui, car je ne vous donnerai rien dans son pays. En effet, j'ai donné le pays d'Ar en possession aux descendants de Lot. Tu te trouveras en face des Ammonites. Ne les attaquez pas et ne les provoquez pas, car je ne te donne aucun territoire dans le pays des Ammonites. En effet, c'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en possession. Versets 4 à 6 et 9. Ésaü, dont les descendants s'appellent les Édomites, ainsi que Moab et Ammon, sont en parenté avec Israël. Les Édomites habitaient essentiellement une montagne remplie de cavernes et une ville taillée dans le roc réputée imprenable. À tous ces peuples issus de la famille d'Abraham, l'Éternel avait aussi donné un pays en héritage. C'est pourquoi il ordonne aux Israélites de ne pas les chasser de leur territoire. D'après les Écritures, c'est Dieu qui fixe les limites aux nations. Le texte que je ne lis pas précise aussi que ces pays étaient auparavant occupés par une race de géants, les Réphaïm, et que c'est l'Éternel lui-même qui les combattit afin que les peuples de la parenté d'Israël puissent s'y installer. Néanmoins, presque 5 siècles plus tard, le roi David soumit tous les habitants de ces régions à un tribut, mais ne les chassa pas de leur territoire, bien qu'il ait eu la puissance militaire de le faire. Je continue. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous et vous n'avez manqué de rien. Verset 7. Moïse met bien l'accent sur le fait que, même durant cette époque de châtiment, Israël n'a manqué de rien grâce à la bénédiction de son Dieu. C'est un témoignage de la sollicitude de l'Éternel. Le roi David écrira dans un psaume, et je le cite, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Fin de citation. Je continue le texte. « Allons, mettez-vous en route, dit l'Éternel, et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais vous livrer Sihon, l'Amoréen, roi de Heshbon, avec tout son pays. Commencez à prendre possession de son domaine, engagez le combat contre lui. » Aujourd'hui, je vais commencer à faire de vous la terreur de tous les peuples qui habitent sous le ciel. Ils vous craindront tellement qu'au seul bruit de votre approche, ils se mettront à trembler et seront pris de panique en face de vous. Versets 24 à 25. Israël contourna les peuples de sa parenté, n'empiétant que sur une toute petite portion de leur territoire et les dédommageant pour l'eau qu'ils buvaient en route. Le roi Sihon avait vaincu les Moabites et pris une partie de son pays. Leur territoire se trouvait à l'est de la mer Morte et leur capitale au nord de celle-ci. Les Amoréens étaient très puissants, c'est pourquoi l'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse, exhorte son peuple avec autant de force. Je continue en raccourcissant le texte. Alors, depuis le désert, j'ai envoyé à Sihon, roi de Heshbon, des émissaires avec ce message de paix. Permets-nous de passer par ton pays. Nous suivrons uniquement la route sans nous en écarter ni à droite ni à gauche. Tu nous fourniras à prix d'argent la nourriture que nous mangerons et tu nous donneras contre paiement l'eau que nous boirons comme l'ont fait les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir et les Moabites qui vivent dans le pays d'Ar. Laisse-nous simplement passer à pied jusqu'à ce que nous ayons traversé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sihon refusa de nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, votre Dieu, l'avait rendu inflexible et entêté, afin de le livrer en votre pouvoir, comme cela est arrivé. Puis l'Éternel me dit, « Vois, j'ai commencé de vous livrer Sihon et son pays. Entreprends la conquête de son pays. » Alors Sihon se mit en campagne contre nous et nous attaqua à Yabats avec toute son armée. Mais l'Éternel, notre Dieu, le livra à notre merci et nous l'avons vaincu, lui, ses fils et toute son armée. Versets 26 à 33. Tous ces événements sont décrits dans le livre des Nombres que j'ai déjà couvert. Ce roi récemment vainqueur des Moabites et des Ammonites fut aveuglé par son orgueil, ce qui l'empêcha de céder au motif de simple prudence qui aurait dû lui faire accepter la proposition équitable que lui proposait Israël. Alors Dieu l'endurcit comme il l'avait fait avec le Pharaon 40 ans plus tôt, et c'est ainsi que les Amoréens allèrent à leur perte et furent effacés de la carte. Cette victoire jeta la consternation parmi tous les peuples cananéens habitant de part et d'autre du Jourdain, en particulier dans ce qui est à proprement parler la Palestine. Nous voici arrivés au chapitre 3 où Moïse continue de passer en revue les événements qui ont précédé la conquête du pays promis. Je commence à lire en compressant. « Nous avons changé de direction et pris la route de Bazan. » Mais Og, roi de Bazan, a marché contre nous avec toute son armée et nous a attaqués à Édrei. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous le livra aussi avec toute son armée et nous l'avons battu jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de survivants. Puis nous nous sommes emparés de toutes ces villes Elles étaient fortifiées, entourées de hautes murailles et munies de portes verrouillées de barres de fer. En plus, nous avons pris un très grand nombre de villages non fortifiés. Verset 1 à 5. Cette région se trouve au nord-est du lac de Galilée et va jusqu'aux confins de la Syrie. Je continue toujours en compressant. Nous avons donc conquis à cette époque-là le pays des deux rois amoréens qui se trouvaient à l'est du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Og, roi du Basan, était le seul survivant des Réphaïm, la race de géants. Son lit, un lit en fer qui se trouve toujours dans la ville ammonite de Rabba, faisait plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Versets 8 et 11. Ce résumé est destiné à faire sentir au peuple toute la grandeur du don que son Dieu lui a fait. Le mont Hermon, situé à 50 km au sud-ouest de Damas, est un massif imposant de 2814 mètres de haut où le Jourdain prend sa source. Sa cime, couverte de neige la plus grande partie de l'année, est visible depuis n'importe quel endroit de la Terre Sainte. La race de géants avait été détruite par les peuples de la parenté d'Israël grâce à l'intervention de l'Éternel en leur faveur. On ne sait pas précisément d'où ils sortent, ces gens-là, sinon qu'ils étaient déjà dans cette contrée au temps d'Abraham. Les dimensions du lit du roi Og sont très impressionnantes. Et on ne sait pas trop comment ce cadre en fer, mot qui peut aussi être traduit par basalte, a atterri dans la ville ammonite citée. On pourrait penser que c'est du nom Og que vient le mot ogre. Mais au dire des spécialistes, il n'en est rien. Je continue en compressant. Nous avons conquis en ce temps tout ce pays. J'ai donné aux tribus de Ruben et de Gad le territoire qui s'étend depuis Aroer, sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galaad avec ses villes. J'ai attribué à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan. En même temps, je leur ai donné ces ordres. L'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays en possession. Mais tous ceux d'entre vous qui sont aptes à porter les armes, vous marcherez en tête de vos frères israélites en tenue de combat. Vos femmes seulement, vos enfants et votre nombreux bétail resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé une existence paisible à vos frères comme à vous, et qu'ils aient pris possession eux aussi du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Puis vous retournerez chacun dans le territoire que je vous ai donné. Versets 12 à 13, 18 à 20. Le pays conquis est divisé en deux parts distinctes. L'une, donnée aux tribus israélites de Ruben et de Gad, est l'ancien royaume de Sion, et l'autre, l'ancien royaume de Basan, est donné à la tribu de Manassé. Moïse leur rappelle que ce n'est pas parce qu'ils ont déjà touché leur héritage qu'il faut laisser les autres aller seuls au combat. Ce sont les hommes de guerre des 12 tribus qui ont vaincu les Amoréens, et donc ils doivent continuer la conquête tous ensemble. Je continue un peu plus loin. Je demandais alors une faveur à l'Éternel. « Seigneur Éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance, et quel Dieu dans le ciel et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres et avec autant de puissance. Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous, et il ne voulut pas me l'accorder. « Assez !» me dit-il, « ne me parle plus de cette affaire. » Versets 23 à 26. Maintenant, Moïse raconte son expérience personnelle et la raison pour laquelle il ne sera pas autorisé à entrer en terre promise. On éprouve de la sympathie pour lui, et je trouve que le châtiment de l'Éternel est sévère. Ce brave serviteur doit assumer jusqu'au bout les conséquences de sa faute. Je finis ce chapitre. Monte au sommet du Pisgah et promène tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Versets 27 à 28. Moïse est autorisé à voir la terre promise de loin, mais pas d'y pénétrer. C'est Josué, son aide de camp, qui va prendre la relève. Maintenant que sa mort est imminente, Moïse désire exhorter le peuple une dernière fois avant de le quitter. Nous voici arrivés au chapitre 4, qui va conclure la revue de la marche d'Israël dans le désert. Le peuple se trouve encore sur la rive est du Jourdain. Il s'agit d'une génération entièrement nouvelle avec seulement deux rescapés de l'ancienne, Caleb et Josué. Ces deux hommes et Moïse sont les seuls qui connurent l'Égypte et l'Exode. Je commence à lire. « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à cause du Dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. Mais vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Verset 1 à 4. L'alliance de Dieu avec son peuple est conditionnelle. La bénédiction d'Israël est strictement dépendante de son obéissance à la loi divine. Jusque-là, ça a été un échec cuisant. À croire que les Hébreux prennent un malin plaisir à se rebeller sans cesse. Moïse plaide avec la nouvelle génération, d'une part en les avertissant contre l'idolâtrie, et d'autre part en les exhortant à demeurer fidèles à l'Éternel, leur Dieu. Il leur faut donc obéir afin de vivre et d'obtenir la prospérité promise. Je continue. « Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les, c'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront, « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Versets 5 à 8. La loi est présentée ici comme le fondement de la sagesse. Et un formidable privilège pour lequel les Hébreux devraient être reconnaissants. En effet, ils jouissent de la proximité de leur Dieu qui leur a donné des commandements justes. Ils ne représentent pas un joug pesant. Au contraire, ils ont pour but leur bien-être. Si je respecte les préceptes divins, d'une part, j'éviterai de sombrer dans les écueils de la vie dont la liste est interminable, et d'autre part, je bénéficierai de la bienveillance de mon Créateur. C'est comme en voiture. Si je respecte le code de la route, j'ai bien davantage de chances d'arriver à bon port que si je me crois sur un manège d'auto-tamponnant. En obéissant au commandement de l'Éternel, Israël va aussi s'élever au-dessus des autres peuples, parce qu'il sera un témoin de la grandeur et de la justice de l'Éternel. L'obéissance à Dieu est donc un préalable à sa bénédiction, une preuve de leur gratitude et le moyen de devenir grand. Un peu plus loin dans ce chapitre, Dieu donne une quatrième raison pour laquelle ils doivent obéir à sa loi. Je la lis. « Parce que l'Éternel t'a aimé, toi et tes ancêtres, et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. » Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.